suite du Bordeaux Colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Un moment de littérature émancipatrice. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'un moment de littérature émancipatrice consacré à la littérature de combat. Comme d'habitude, nous commencerons avec la rubrique « Un livre, un auteur ». Nous retrouverons également la chronique cinéma de Paul Yabastre. De quel film sera-t-il question, Paul, aujourd'hui ?
Alors, je vais vous parler de « Nationalité immigrée », un film du réalisateur mauritanien Sidney Sokona, sur la condition des travailleurs immigrés dans les années 70 en France.
Pour parole de libraire, nous serons à Soulac, dans la librairie de Corinne. Sarah Vélu, dans sa rubrique Art, qui nous parlera de qui et de quoi.
Alors, Sarah nous parlera d'art comme d'habitude, et d'art contemporain, sur l'île Maurice, avec le portrait d'une artiste mauricienne.
Qui s'appelle Nirveda Alec.
Et c'est Gérard Clabé. Bonjour Gérard.
Bonjour à tous.
Toujours fidèle et précieux, qui assure l'habillage musical de la rubrique Un livre, un auteur, et la réalisation de l'émission sur la Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Un livre, un auteur. De quel roman et de quelle autrice sera-t-il question aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous vous proposons un récit autobiographique de Natacha Apana, La mémoire délavée, paru en 2023 aux éditions Mercure de France dans la collection Traits et portraits. Natacha Apana raconte sa quête de ses origines.
Résumé, à l'occasion de recherches en vue de rédiger un nouveau roman, la narratrice, Natacha Apana elle-même, retrace le parcours de ses aïeux partis d'un village de l'Inde, de l'Andhra Pradesh, vers l'île Maurice en 1872. Elle se heurte aux réalités historiques et relate la figure de son grand-père, symbole du destin des immigrés.
Alors on parle ici de récit plus que de roman, car il ne s'agit ni d'une fiction, ni d'un témoignage, mais du parcours à la fois intime et universel d'une romancière ayant le créole mauricien comme langue maternelle, s'interrogeant sur son histoire familiale qui se confond avec celle des immigrants indiens venus sur l'île Maurice.
D'ailleurs, la forme d'écriture illustre le genre de ce récit singulier. L'utilisation de la première personne, bien sûr, mais aussi le système des temps, le présent de la narratrice, qui s'interroge aujourd'hui sur le parcours de ses ancêtres, sur les humiliations qu'ils ont subies, et le passé pour retracer les événements vécus par les personnages depuis leur arrivée sur l'île Maurice.
Portrait. Les archives de l'immigration indienne à Moka possèdent environ 454 000 fiches et quelques 175 000 photos prises à l'arrivée des Indiens au dépôt de Port-Louis. Certaines planches sont reproduites dans les livres, prêtées à des expositions, servent d'illustrations aux articles de journaux. Les engagés ont des visages sombres, presque noirs, les yeux opaques qui regardent ailleurs. Certains ont des rides profondes, des barbes épaisses, d'autres portent des bijoux, des cheveux ramenés en chignon, d'autres encore des turbans. Ils sont jeunes, ont l'air robustes, ils sont vieux et hagards. Il y a des enfants aussi. Pourtant, pendant des années, ils forment une masse, un groupe lointain, quelque chose qui m'est familier, mais qui ne m'est pas personnel. Je n'arrive pas à les individualiser, je ne sais pourquoi. J'avais l'impression qu'ils portaient tous le même masque de cuir et de cire mélangé. J'imaginais le grain de ce masque, épais et moite, pas doux, pas tendre, pas vivant. Quand bien même je les observais longuement, ces visages, que je murmurais leurs noms et leurs numéros, ils racontaient toujours une histoire qui n'était pas la mienne. C'est terrible à écrire cette phrase.
Chevreau. En faisant quelques recherches rapides sur Internet, je découvre l'existence d'un Étienne Chevreau, intendant de Lille, sous occupation française, et ce ne serait pas étonnant qu'un lieu-dit porte son nom. Camp Chevreau est le lieu d'habitation des engagés travaillant au domaine La Bourdonnée, à Mapoue, toujours dans le Nord. Au sein de ces camps de travailleurs, la vie est rythmée par le travail intense dans les champs, des journées de 12 heures, 6 jours par semaine. Certains enfants sont recrutés dès 7 ou 8 ans pour des travaux de désherbage, par exemple, et certains garçons sont officiellement sous contrat, engagés, à partir de 12 ans. Les femmes et les filles s'occupent de la maison, des repas, de la lessive. Certaines font des tâches domestiques dans la maison des propriétaires, du nettoyage à l'écurie, un peu de maraîchage, la garde ou le soin des animaux d'élevage. Chiam Das, qui est né à Camp Chevreau en 1950, me décrit ce qu'il appelle un village. Ce sont des huttes de torchis et petites maisons en dur qui servent de logement aux engagés et qui sont réparties selon l'organisation spatiale d'une plantation coloniale. Il y a les champs, le moulin, la grande demeure des propriétaires en retrait, puis un peu plus loin, le camp d'habitation. Chiam Das n'a pas oublié la longue allée bordée de ces cases, d'un puits où les familles venaient chercher de l'eau. Les logements sont minuscules, les toits en paille, les murs et le sol enduits de bouses de vache pour les isoler. Il se souvient vaguement des deux frères, son grand-père et celui de mon père, qui habitaient l'un à côté de l'autre et qui, dans les années 40, ont été promus contremaîtres, sire d'Ars. Quand Chiam Das a 5 ans, son père devient à son tour un sire d'Ars et la famille emménage dans une petite maison en dur où le jeune garçon étudie à l'aide de lampes à pétrole. Il parle créole, hindi, bhojpuri, apprend l'anglais et le français.
Injustice. En 1934, chaque laboureur a un rendement quotidien à accomplir pour gagner son salaire. Ce travail, pour mon grand-père, selon ses propres mots, se mesurait en gaulettes. La gaulette est une unité de mesure de surface agricole qui sert à comptabiliser la tâche, le désherbage ou la coupe, et correspond à 10 pieds de long pour 5 pieds de large. Un pied équivaut à peu près à 31 cm. C'est la fin de la journée, je ne sais pas si c'est l'été ou l'hiver, et ma grand-mère est enceinte de son deuxième enfant. Mon grand-père a terminé son travail et attend que le contremaître valide ses gaulettes pour pouvoir recevoir son dû. Le contremaître, un blanc, déclare mon grand-père qu'il n'a pas terminé son quota du jour. Ce dernier n'est pas d'accord et argumente, le ton monte. Je ne sais pas ce qui remonte dans le corps et le cœur de mon grand-père à ce moment-là et qui le met hors de lui. Est-ce la mémoire enfouie des années de labeur et d'asservissement? Ces micro-humiliations que subissent chaque jour les laboureurs, la difficulté renouvelée au quotidien, le sentiment de tourner en rond, est-ce l'injustice de trop?
Ces événements ont été vécus sûrement, mais aussi quelquefois imaginés. Car la narratrice se heurte à une mémoire quasi totalement oralisée, ce qui rend difficile la narration factuelle et ce qui illustre d'autant la nécessité de ce travail d'écriture pour inscrire concrètement cette mémoire.
Une mémoire délavée. Il y a aussi à l'époque de la plantation un quotidien si lourd que le temps pour cette mémoire écrite, pour cette mémoire attestée et vérifiée n'existe pas. À quoi bon savoir exactement sa date de naissance quand la cloche du domaine sucrier sonne tous les jours à 5 heures du matin et qu'il faut faire son quota quotidien? À quoi sert se rappeler l'orthographe exacte de son nom quand les corps et les esprits sont occupés à survivre et que toute sa vie est circonscrite par la plantation? Comment imaginer un seul instant dans ces années où même les enfants travaillent, où l'instruction n'est pas accessible encore, où la mort est fréquente, comment imaginer un seul instant que sa présence sur Terre est digne d'être inscrite noir sur blanc? Comment croire qu'on peut être un souvenir précieux, une mémoire à transmettre? Dans ma famille, il y a aussi l'envie de s'extraire de sa condition, de grimper l'échelle sociale, de s'instruire, de s'enrichir, de voyager, de faire autre chose. Je n'ai pas grandi dans la mémoire de l'engagisme ni dans le culte de l'Inde. Jamais le nom de mes ancêtres n'a été prononcé à voix haute, leurs photos et leurs numéros honorés. Nous devions respecter les coutumes et les traditions de notre communauté, mais pas forcément connaître ceux qui nous les avaient légués. Alors, de ces engagés-là, on sait peu de choses. On croit savoir, on dit « peut-être, probablement, il semble que, c'est vieux tout ça, c'est fini ces choses-là ». Alors, pendant des années, j'ai cru et aimé croire que mes ancêtres avaient quitté l'Inde au début du XXe siècle et étaient arrivés en famille. Mon esprit les a lavés, ces ancêtres, essuyés leurs visages, coiffés leurs cheveux, habillés de vêtements propres, éloignés des cales des bateaux et de la perspective du labeur quotidien des champs de canne. C'est une mémoire presque propre. C'est une mémoire délavée.
Une langue confisquée. Ma grand-mère a toujours été très fière de sa culture et de sa langue. Elle était également très croyante et respectueuse de la religion d'autrui. Pourtant, dès que je suis entrée à l'école primaire, elle a cessé de me parler en télougou. Ou alors elle le faisait de manière épisodique. Elle m'encourageait toujours à bien étudier, me recommandant de bien apprendre français, anglais et mathématiques. Elle nommait ces matières sans leur déterminant, comme si c'était des noms propres. Elle avait intégré, au travers de ses années dans la plantation, que sa langue maternelle était une langue mineure et inférieure, bien que plus de 79 millions de personnes la parlent aujourd'hui.
Elle avait pensé que dans ma vie future, je n'aurais pas besoin de cette langue-là. Elle avait aussi intégré une croyance terrible. Elle qui louait et craignait la trinité hindoue, Brahma, Shiva, Vishnu, entrait dans une église catholique à la veille de chacun de mes examens. Elle allumait une bougie devant la statue de la Vierge Marie et priait pour moi. Pour les examens de l'école, elle avait plus confiance dans le Dieu des Blancs, le Dieu qui parle français et anglais, me confiait-elle. Voilà un autre des effets de la vie dans les plantations coloniales, de la vie de dominé. On finit par croire que non seulement sa langue maternelle est inférieure, mais que dans certains domaines, ses dieux ancestraux le sont aussi. J'aimerais pouvoir comprendre et utiliser à nouveau le télougou. J'admire la graphie de cette langue que j'ai apprise il y a longtemps, mais dont j'ai oublié jusqu'à l'alphabet. Il me reste une tendresse pour cette langue effacée, comme il me reste étrangement une tendresse pour la figure de la Vierge Marie.
Ces humiliations familiales, en fait, correspondent à celles de ces Indiens qui ont débarqué sur l'île à partir des années 1834, qui est la date de l'abolition de l'esclavage pour les Britanniques. Il a fallu donc pour les colons, propriétaires de plantations de canne à sucre, de littéralement compenser la fin de cet esclavage en le remplaçant par ce que l'on nomme l'engagisme.
Débarquement. Ce n'est pas un début ni le début, mais ça commence comme ça. Il y a trois fiches aux archives de l'immigration indienne à l'Institut Mahatma Gandhi à l'île Maurice. Ce sont celles de mes trisaïeuls et de leur fils, mon arrière-grand-père. Elles attestent de leur arrivée à Port-Louis, capitale de l'île, qui est alors une colonie britannique, le 1er août 1872, un peu plus d'un siècle avant ma naissance, ou à peine un siècle avant ma naissance. Je ne sais pas peser le temps qui me sépare d'eux. Est-ce beaucoup? Est-ce peu? Ils étaient des engagés indiens, des coulisses, comme on disait, et avaient quitté leur village indien de Rangapal, dans le district de Visakhapatnam, dans l'état d'Andhra Pradesh. Sur le port de Madras, aujourd'hui Chennai, ils ont embarqué sur un bateau appelé John Allan et leur traversée a duré à peu près 7 semaines. Mon trisaïeul porte le numéro 358-444. Il avait 45 ans. Ma trisaïeule avait 39 ans. Les autorités britanniques lui attribuent le 358-445 et leur fils âgé seulement de 11 ans et le numéro 358-448. Ces numéros me bouleversent. Je sais qu'ils devraient les retenir ou les avoir sur eux comme laissez-passer quand ils se déplaçaient hors de la plantation de champs de canne. Ce sont ces chiffres qui les identifient d'abord et avant tout, pas leur nom, qui est trop compliqué, pas leur visage, qui ressemble à tant d'autres, pas leur langue, que personne ne comprend vraiment. La déshumanisation immédiate que provoque l'attribution d'un numéro à un être humain ne m'échappe pas. C'est un couperet qui marque l'avant et l'après. C'est une marque au fer rouge qu'on applique brûlante et grésillante. Alors je les apprends par cœur aussi, et de temps en temps, tout bas, je les récite. 358-444, 358-445, 358-448. Ce n'est ni une prière ni un mantra. C'est pour ne pas oublier.
trahison. L'engagisme est un système de travail sous contrat mis en place dès 1830 par les Européens, Anglais, Français, Portugais et Néerlandais pour pallier le manque de main-d'œuvre dans les champs de canne des colonies après la libération des esclaves. C'est une transhumance mondiale, une migration organisée et multidimensionnelle dictée par l'expansion coloniale de l'Europe, mais également par la misère endémique dans les pays désengagés. Tant qu'il y aura des mères, tant qu'il y aura la misère, tant qu'il y aura des dominances et des dominés, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des bateaux pour transporter les hommes qui rêvent d'un horizon meilleur. Au début de l'engagisme, ces recruteurs mentent aux curieux. Ils leur font miroiter de l'argent facile, une vie aisée. Ils ne leur parlent pas du quotidien dans les champs. Certains signent sans connaître la destination, la nature du travail, la durée du contrat. Les kidnappings sont réguliers, les abus et les mauvais traitements aussi. L'histoire de l'engagisme indien est introduite dans les écoles mauriciennes à travers cette anecdote. On aurait raconté aux premiers engagés que, sous les rochers, à l'île Maurice, dorment des quantités d'or et qu'il suffit de les retourner pour gagner une fortune. À mon pupitre d'écolier, j'avais bien peu de compassion et me moquais de cette crédulité. De l'or sous les rochers, qui peut croire à un truc pareil ?
Justice. Au-delà des représentations documentées des Indiens dociles et des Indiens bons travailleurs, le camp pour les engagés est également un lieu où ils se sentent un peu protégés. Le système patriarcal a plusieurs niveaux, le propriétaire, puis le contremaître, puis le laboureur, et en bas de l'échelle, la femme, agit comme une écluse qui retiendrait ensemble ce monde. Le propriétaire domine, protège et paie ses employés. Le contremaître répond directement au propriétaire, surveille le travail du laboureur, mais hors du travail, il est son égal et parfois un membre de sa famille. Le laboureur a peur de son propriétaire, mais confiance dans son contremaître et peut prétendre, s'il travaille bien, à devenir lui-même contremaître. La femme n'a pas de rôle autre que l'immense charge mentale et quotidienne du foyer et dépend directement de son mari, son père, son fils. Le respect mutuel, qu'a évoqué Shyam Das, est une illusion, je crois. Ce système plantationnaire ne fonctionne que par le jeu de dominant-dominé. Et comme dans un engrenage, il faut de l'eau, de l'huile, un lubrifiant quelconque pour que la machine avance. C'est ce jus qui est appelé docilité, respect mutuel, entente, obéissance, ou je ne sais quoi encore.
Alors, l'engagisme, c'est ce système qui consiste à utiliser, en les engageant, des travailleurs agricoles venus pour ce qui concerne l'île Maurice, essentiellement d'Inde. Munis d'un contrat de 5 ans, de promesses illusoires de trésors enfouis, à bord d'un bateau négrier reconverti pour les nouveaux besoins, ils ont embarqué vers ces terres promises, dont l'île Maurice, et ils ont découvert la réalité de cet engagement.
On utilise d'ailleurs aussi, concernant ces travailleurs exilés, un autre terme, celui de coulisse, qui très vite, et encore aujourd'hui, est connoté de façon péjorative dans les pays anglophones, et qui renvoie à cette condition de quasi-esclave.
Oui, car dans les faits, le coulis, malgré ce contrat, était soumis à l'esprit esclavagiste puis colonialiste de l'époque, et il a dû subir des traitements désaminusants, rappelant les heures noires de l'esclavage.
L'autrice traverse donc la mémoire de sa famille, et la partie centrale du texte dresse un portrait sous forme d'hommage à son grand-père, qui travaillait dans un champ de canne.
Oui, alors l'île Maurice, après une colonisation portugaise de 1500 à 1600, les esclaves sont introduits dans l'île lors de la deuxième colonisation hollandaise, cette fois pendant la période courant de 1638 à 1710.
L'île subit encore une troisième colonisation, celle de la France, jusqu'en 1810. L'île en fait un ensemble de petites îles au sud-ouest de l'océan Indien, est alors appelée l'île de France. C'est sur cette île que se déroule d'ailleurs le fameux roman exotico-sentimental Paul et Virginie, écrit en 1788 par Bernardin de Saint-Pierre.
Enfin, l'île subira encore une colonisation, celle des Britanniques, jusqu'au 12 mars 1968, date de la proclamation de l'indépendance de l'île, et qui devient une république en 1992, tout en restant dans le cadre du Commonwealth.
Le texte est profondément intime, jusqu'à être illustré par des photos personnelles, et on le comprend encore plus au regard de la biographie de Natacha Panin et de sa littérature.
Un cadeau mal perçu. Je ne crois pas avoir déjà entendu mes grands-parents parler de l'Inde. Ils se disaient Telugu, qui est à la fois une langue et une communauté. Ils priaient les dieux de la Trinité indienne et d'autres demi-dieux du Panthéon. Ils ne mangeaient pas de bœuf, pas de porc. Ils respectaient les traditions hindoues, mais ils se sentaient mauriciens. Ils ne vivaient pas dans le culte d'une appartenance indienne ou dans le regret d'une terre patrie ancestrale. Dans les années 80, mon oncle Rajen, le frère cadet de mon père, qui avait fait des études de droit et vivait en France, a voulu offrir à mon grand-père un grand voyage en Inde. Lui-même y allait assez régulièrement pour son travail et y passait de longs mois. Il avait imaginé un périple de retour dans les villages de l'Andhra Pradesh, des pèlerinages dans les temples, des balades dans les sentiers de traverse, une journée sur le port de Chennai. C'était une superbe idée, un cadeau précieux que ce voyage entre père et fils. Mon oncle et mon grand-père ont pris l'avion depuis l'île Maurice et leur absence devait durer deux longs mois. Mais, à peine une semaine plus tard, le téléphone a sonné chez nous. C'était mon oncle qui nous informait qu'il avait mis son père dans un avion qui arriverait le lendemain même. Il n'arrivait pas à supporter l'Inde, à lancer dépité mon oncle. Ce verbe, supporter, a collé à un pays comme si c'était un dernier, était un être vivant. À son retour, mon grand-père est resté alité plusieurs jours, fatigué et triste. Je me souviens de lui, allongé sur le côté de son lit, le visage illisible pour l'enfant que j'étais. Il a dit peu de choses en se cachant les yeux. Il y a trop de misère là-bas, trop de chagrin. Je voulais rentrer chez moi. Là-bas, il n'y avait plus rien pour lui. Plus rien à lui. Chez lui, c'était donc l'île Maurice, cette île bleue par-delà l'eau noire.
Les miens. J'imagine ce moment suspendu, hors du temps et de l'espace, bruissant de chuchotements en hindi, en bodjouri, en créole. J'imagine cette file composée des vieux de ce village, ceux qui, comme mes grands-parents, sont nés avec l'odeur de la canne à sucre, ne sachant ni lire ni écrire, accompagnés de leurs enfants, leurs petits-enfants. J'imagine toutes ces mains jointes et ces prières silencieuses pour mes grands-parents, sur leur lit de fleurs parfumées, œillets d'Inde, roses, hibiscus, frangipaniers. Comme j'aime cette grâce qui les accompagne dans cette dernière traversée. Comme j'aime cet hommage des vivants pour leur migration ultime. «
Oui, alors Natasha Appana, qui descend d'une famille d'engagés indiens de la fin du 19e siècle, les Patareddy Appana, est née en 1973 à Mahébour, qui est une petite ville du sud-est de l'île et qui a d'ailleurs gardé des traces architecturales du colonialisme. Elle passe les 5 premières années de son enfance dans le nord de l'île, Maurice, à Piton, puis elle sera journaliste sur l'île jusqu'en 1998, date à laquelle elle vient en France poursuivre ses études. Aujourd'hui, elle vit à Paris, écrit en français et a gardé sa nationalité mauricienne.
Sa littérature est fortement marquée par cette histoire familiale et désespérante. Ainsi, son premier roman, Les Rochers de Poudre d'Or, publié en 2003, raconte l'épopée de ses travailleurs indiens, de ses engagés, de ses coulis. Il en est de même pour son deuxième roman, Blue Bay Palace, édité en 2004, qui se déroule dans un hôtel de luxe de Lille et qui cristallise les différences de classe et sûrement de caste dans un pays fortement imprégné de la culture indienne.
Oui, et en fait, dans tous ses autres romans, elle en a écrit à ce jour 11 depuis 2003. Ils sont tous récompensés. Dans tous ses romans, on retrouve la trace de ses spécificités historiques, culturelles et sociales de l'île Maurice. Alors Gérard, tu as habillé musicalement les extraits de ce livre de Natasha Appana. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette musique ?
Oui, alors l'habillage musical de vos lectures, Martine et Bertrand, du récit de Natasha Appana, emprunte à son histoire, à cette mémoire délavée, comme elle le dit si bien, l'histoire de ces trisaïeuls indiens du Sud partis s'engager dans les champs de canne de l'île Maurice. Ils sont partis de l'Andhra Pradesh, ils emportent avec eux la langue, Telugu, et la plainte, les rythmes de la musique traditionnelle et classique du sud de l'Inde, qu'on appelle la musique carnatique. On a fait appel à deux artistes de ce style musical, un artiste indien de Madras, on ne dit plus Madras, aujourd'hui on dit Chennai, je crois, en tamoul. Cet artiste, il s'appelle Natesan Ramani. C'est un célèbre joueur de venu, qui est la flûte traversière en bambou, accompagné par la vina, qui est un grand luth à 7 cordes, joué par une femme, accompagné par un violon et des tablas, hein, ces petits tambours doubles, pour deux interprétations, Manasa Sankarare et Rati Sukha Sare. Et un deuxième artiste mauricien, celui-là, Jimmy Apalama, joueur de Mridangam, qui est un tambour en tonneau, accompagné par un violon et un joueur de Gatam, qui est un pot à eau en terre cuite, frappé, pour un morceau intitulé Subiyu Saptas Waras.
La bacha biche na sega Deba kadea Pesea cha biche fea zutrega Zot piro Zot fin met la balo bon bouillaz Zot tape assise ici Divant la porte numéro 3
C'est Bindedame du chanteur et percussionniste mauricien Manoir, qui signifie en créole Manoir, son pseudonyme. Il joue tout d'abord une musique traditionnelle venue des esclaves, le séga, qui se danse également. Les instruments sont traditionnels, en particulier la ravenne, qui est son instrument à lui. C'est une grande percussion circulaire qui représente le monde et l'unité des peuples, faite en peau séchée de cabri, dont le son ressemble à celui du djembé. Le séga se mêle ensuite au blues érigé et donne le sagaï, dont il écrit une méthode. Il s'attaque dans ses textes aux problèmes sociaux et aux injustices. Il a participé à de nombreux festivals dans le monde et obtenu le prix Découverte RFI du meilleur artiste de l'océan Indien. La chronique cinéma. Nous écoutons Paul Yabastre pour cette chronique consacrée aujourd'hui à Sidney Sokona.
Oui, j'ai choisi aujourd'hui de me concentrer sur la question de la mémoire des immigrés à travers le film Nationalité immigrée de Sidney Sokona, une œuvre éclairante sur la situation des travailleurs immigrés en France dans les années 70 et surtout un véritable fondement cinématographique à la mémoire de l'immigration française. Vous venez d'entendre la musique de Moussa Ndanro qui ouvre Nationalité immigrée. Sidney Sokona est un cinéaste mauritanien né en 1952 qui arrive à Paris à l'âge de 14 ans. Il étudie la photographie et le cinéma puis devient l'assistant bénévole de Jean Rouch et de Med Hondo. En parallèle de ses activités dans le cinéma, il travaille comme téléphoniste. C'est d'ailleurs ce travail qui va lui permettre de réaliser son film Nationalité immigrée, dont le tournage s'étend de 1972 à 1975. Le film coûte alors 25 000 francs, destiné essentiellement à financer la location du matériel, tandis que les techniciens sont payés à un tarif amical, selon les mots de Sokona, mais ils sont payés. Le montage s'effectue à la Cinémathèque française, dans un local mis à la disposition de Jean Rouch par Henri Langlois. Et c'est justement la monteuse de Rouch, Danielle Tessier, qui monte le film avec Sokona. Le film a bénéficié du soutien du CERDAV, le service d'études de réalisation et de diffusion de documents audiovisuels du CNRS, ainsi que du GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques créé en 1969 par Jean Rouch, et par les producteurs Pierre Braunberger et Anatole Dauman pour développer la création de premiers films de court-métrage en veillant à leur caractère singulier et innovant. Après Nationalité immigrée, Sokona tourne un deuxième film, Safrana ou le droit à la parole, en 1977. Puis il abandonne le cinéma pour retourner en Mauritanie, s'engager en politique, et il devient vice-président de l'Assemblée nationale en 2020. Avec Nationalité immigrée, Sidney Sokona reconstitue la vie d'un immigré en France au début des années 70. Le réalisateur joue le rôle de Sidi, un ouvrier mauritanien qui se rend en France à la recherche de travail. Il se met lui-même en scène dans des situations qu'il a réellement vécues à son arrivée en France. À travers un procédé de fiction, il donne une image cinématographique aux réalités vécues par les travailleurs immigrés. Chaque séquence est en effet suivie d'un commentaire en voix off du cinéaste qui, chiffre à l'appui, montre que ce qui vient d'être filmé est vécu par de nombreux étrangers. Le film alterne séquences mises en scène et séquences documentaires où l'on voit le réalisateur interroger des témoins, ce qui offre un contrepoint au procédé fictionnel et inscrit le film dans une forme brechtienne, accentuée par la sobriété du noir et blanc. Parmi les situations mises en scène par Sokona, on retrouve le passage de la frontière, la vie dans les logements insalubres, la recherche d'emploi et toutes les formes de racisme subies par les étrangers. Une séquence emblématique montre Sidi essuyer un grand nombre de refus de la part de chauffeurs de taxi, et le seul qui accepte sa course se révélant lui-même raciste, commençant plusieurs de ses phrases par « je ne suis pas raciste, mais ». Le film met en cause ceux à qui profite l'immigration, en particulier les patrons qui embauchent des travailleurs immigrés pour les payer moins cher que des Français et pour les exploiter. On entend cette phrase « Pour un patron français, le travailleur immigré c'est le manœuvre tranquille, c'est la machine humaine qui fait tout pour presque rien et surtout qui ne se révolte jamais ». Fin de la citation. Ces travailleurs sont aussi bien exploités par les passeurs, qui augmentent les tarifs une fois arrivés et piègent les clandestins, que par d'autres immigrés déjà installés en France, qui ont trouvé une opportunité dans la situation. Le marabout qui promet à Sidi de lui trouver un travail, un fournisseur de fausses cartes de travail à chaque fois, en échange d'une importante somme d'argent. Le film pointe le paradoxe face auquel se trouvent les travailleurs immigrés. Il faut une carte de travail pour être embauché, mais il faut un employeur pour obtenir ce document. Nationalité immigrée fait partie de ces films des années 70 avec lesquels des cinéastes africains prennent la caméra et dénoncent le racisme structurel français, à l'instar d'Ali au Pays des Merveilles, de Djoura Abouda et Alain Bonamy dont j'ai parlé au mois de septembre. La particularité de Nationalité immigrée est la place qu'occupe l'organisation et la lutte des travailleurs immigrés contre le racisme et l'exploitation économique. Le dernier tiers du film est consacré à la grève de loyer des habitants des taudis et des bidonvilles, en particulier celle du foyer taudis de la rue Riquet. Sokona filme le taudis, tandis que le commentaire en voix off décrit les conditions de vie. Ce foyer est tenu par un marchand de sommeil, et le réalisateur met en scène la rencontre entre des représentants des grévistes et le représentant du propriétaire. Sokona filme également une distribution de tracts sur un marché. Les militants rencontrent parfois l'hostilité des passants. Le film expose aussi les risques du militantisme puisque Sidi se fait arrêter par la police. Ces 8 mois de lutte ont fonctionné car les revendications des grévistes ont été satisfaites et ils ont tous été relogés dans un nouveau foyer. Nationalité immigrée se clôt par une annonce. Les travailleurs immigrés s'impliquent dans les luttes car ils sont ceux qui font les travaux les plus durs et les plus mal payés des secteurs clés de l'économie en France. La mise en scène de ces situations fait de Nationalité immigrée une œuvre de mémoire qui inscrit sur la pellicule une réalité absente des images jusqu'au début des années 70. Dès la séquence d'ouverture, Sokona met en scène 2 hommes blancs qui attribuent différents logements insalubres à des étrangers. Le foyer Todi à Sidi, qui est mauritanien, le bidonville à Ben Mohamed Ali, qui est tunisien, et la cité dortoir à José Fernandez, qui est espagnol. En une séquence, Sokona unit tous les étrangers vivant en France sous une condition unique d'immigrés. Plus tard dans le film, Sokona montre que la mémoire des immigrés est une mémoire collective, comme dans le livre Natacha Apana.
Je suis un immigré. Je suis aussi celui qui est venu en France clandestinement pour travailler comme ouvrier à la chaîne. Je suis celui dont l'arrière-grand-père a été déporté et a servi aux Amériques pendant la traite des nègres. Je suis celui dont le père a été mourir dans les Ardennes pendant la Seconde Guerre. Une guerre qu'il faisait sans savoir pourquoi il la faisait.
Ainsi, Nationalité immigrée de Sidney Sokona est un précieux témoignage de la condition des immigrés en France. Un film militant, formellement radical, que vous pouvez retrouver en location sur la plateforme TENK, T-E-N-K.
Parole de libraire.
Bonjour Corinne, merci de nous accueillir. Et d'abord, pouvez-vous vous présenter et nous raconter vos premiers pas de libraire?
Ouais, alors moi, je m'appelle Corinne Coppen, ça fait 40 ans que je suis libraire à Soulac. J'ai commencé quand j'avais 20 ans à la bouquinerie et depuis 15 ans, j'ai ouvert ma propre librairie à Soulac.
La bouquinerie à Soulac?
Oui, tout à fait, la bouquinerie de Soulac. J'ai commencé là-bas à 20 ans. Je suis arrivée à Soulac, j'étais en vacances, je suis restée à Soulac et j'ai commencé à travailler pendant 25 ans et ils m'ont licenciée, donc... Suite à ça, je me suis installée à mon compte.
D'accord. Et donc, votre librairie est généraliste. Cependant, avez-vous des domaines auxquels vous êtes plus particulièrement attachée?
Alors oui, c'est une librairie généraliste, mais on vend beaucoup, essentiellement de la littérature blanche et policière. Mais j'ai aussi un grand rayon en jeunesse, parce que je suis très, très attachée à la littérature jeunesse. Et personnellement, j'adore lire les albums jeunesse.
Et d'ailleurs, avez-vous des techniques particulières pour valoriser des livres dont vous souhaitez le succès?
Oui, d'ailleurs, une petite anecdote, on a fait les coups de cœur, les meilleures ventes de l'année 2023. Et comme en 2022, ça fait plusieurs années, les meilleures ventes sont nos coups de cœur à Julien qui est libraire ici et à moi. En fait, on n'est pas du tout dans les clous des ventes nationales. Et c'est vraiment nos 3 coups de cœur qui ont été dans nos meilleures ventes. On en vend plus de 100 exemplaires de chaque. Et on en est très, très fiers.
D'accord. Vous les mettez en avant, vous mettez...
On les met en avant, les conseils. Et bon, moi, comme ça fait ma 40e année que je suis libraire à Soulac, si vous voulez, les gens, ils me font confiance. Quoi. Les gens qui me suivent me font confiance. Et il y a des profils de lecteurs. Hein. Après, on sait vers qui on va, vers quel livre on peut proposer. Et c'est vrai que les livres que nous, on a lus et qu'on a aimés, ben voilà, on les met en avant, on fait des piles et on fait des choix.
D'accord. Et à ce propos, êtes-vous parfois confronté à un dilemme, choisir entre vos goûts personnels et la nécessité de vendre ?
Alors bon, donc moi j'ai la chance d'être chez moi, c'est une petite librairie indépendante, donc j'ai pas trop de contraintes et surtout je n'en veux pas. Donc je vends ce que j'ai envie de vendre quand même. Mais malgré ça, il y a quand même effectivement une réalité économique. Par exemple, en ce moment, il y a la nuit romance là, pour les jeunes, donc j'ai fait un petit rayon... quand même, bien que ça me plaise pas passionné. Je suis pas passionnée par ces ventes-là. Mais après, l'essentiel, c'est quand même que tout le monde lise, quoi. Je veux dire, on se fait plaisir à lire. Je vais pas juger sur un livre, mais il y a quand même des choses qui sont pas bonnes, et ça, on évite quand même.
D'accord. Et est-ce que vous diriez que vous avez un rôle social et culturel dans la ville ?
Dans la ville, non. Par contre, cette librairie, c'est quand même un lieu de rencontre. Les gens qui viennent, j'ai une clientèle très fidèle, de personnes un petit peu âgées à la retraite, souvent aussi. Et même les plus jeunes, parce que ça fait 3 générations, en 40 ans, ça fait 3 générations que je vois. Donc c'est un rôle quand même d'échange, oui, de culture aussi, parce que le fait de valoriser beaucoup les livres jeunesse, ça quand même... Le but, c'est de populariser la librairie, en fin de compte. C'est parce qu'il faut que tout le monde... Je fais beaucoup de jeunes en librairie dans des classes de collège dans le Médoc. Et il faut que les gens se donnent le droit d'aller en librairie. Il ne faut pas croire que c'est sacralisé, quoi. C'est ça aussi l'intérêt de... De ce côté-là, il y a peut-être un petit rôle social, de pouvoir amener un peu tout le monde dans ma librairie.
D'accord. Et alors, proposez-vous des... Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous proposez des dispositifs particuliers pour développer votre activité ?
Oui, tout à fait. Bah, demain soir, je reçois une auteure qui est en résidence d'écriture à Soulac en ce moment. Donc, on fait la nuit de la lecture. Donc, on va parler de son livre. Alors, il y a beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils viendraient demain et qui n'isent pas forcément des policiers, puisqu'elle est auteure de policiers. Mais du coup, ça permet une découverte aussi. Je travaille donc avec les collèges. J'ai parfois des années jusqu'à 7 classes dans le Médoc. Des classes de 3e et des classes aussi d'apprentissage de CAP à Pauillac. Au lycée de Pauillac. Je fais lire en poche le salon à Gradignan depuis 12 ans. Je fais les estivales de la BD à Montalivet. Je fais le salon de Soulac aussi. Donc oui, je me déplace pas mal.
Et alors, dernière question. Pouvez-vous nous conseiller un ou deux titres qui enrichiront une bibliothèque idéale contre les oppressions, quelles qu'elles soient ?
Oui, j'ai envie de vous dire, il y a le livre de Richard Malka, Le droit d'emmerder Dieu, par exemple. Qui s'est très bien vendu, on en a vendu plus de 100, donc je suis assez contente. Il y a un vieux livre aussi de Giono, L'homme qui plantait des arbres, c'est aussi un livre qu'on arrive à vendre par 100 exemplaires tous
c'est
les
fou,
ans,
ça, hein,
et qui est un livre d'écologie en fait. Oui, on arrive aussi à, sans être frondeur, à avoir quand même un petit rôle social. Oui.
Merci beaucoup.
De rien, merci à
merci.
Vous.
Alors c'était Sarah Vélu et Paul Yabastre qui nous ont emmenés jusqu'à Soulac-sur-Mer pour rencontrer donc Corinne Coppen.
Et pour quelle librairie ?
Pour la librairie, la librairie de Corinne.
La chronique art de Sarah Vélu.
Alors nous écoutons maintenant Sarah nous parler aujourd'hui d'art contemporain avec l'artiste mauricienne Nirveda Alec.
Je vais vous parler aujourd'hui du travail de Nirveda Alec et de son regard plastique sur les relations humaines. Née en 1975 à Maurice, elle est la dernière d'une famille de 8 enfants. Sensible très tôt à la pratique artistique, elle obtient à 7 ans un premier prix lors d'un concours de peinture. Cette vocation ne l'empêche pas d'étudier en parallèle les matières scientifiques. Ainsi, elle souhaite diversifier ses ressources intellectuelles pour proposer un travail qu'elle qualifie de « neutre », mathématique et non sentimental. Après des études secondaires en Afrique du Sud, au Cap, elle part étudier les arts à Glasgow, où elle commence à faire connaître son travail lors d'expositions collectives. À la fin de sa scolarité, à son retour à Maurice, elle débute sa carrière d'enseignante aux Beaux-Arts et se sent isolée dans sa pratique artistique. Riche de ses expériences précédentes collectives, elle se questionne sur le sentiment d'appartenance culturelle, notamment en lien avec l'Afrique. Elle entre ainsi en lien avec différentes institutions artistiques africaines et profite en 2021 d'un fonds de soutien malien permettant les résidences d'artistes internationales et obtient l'opportunité de venir à la Cité internationale des arts de Paris pour y préparer une exposition. Elle y rencontre de nombreux artistes étrangers et explique lors d'un entretien accordé à Samuel Gélas pour la plateforme MediArt être amusée d'avoir finalement rencontré très peu d'artistes français. Elle se dit aussi très enrichie par ces échanges et souligne l'importance du réseau dans la pratique artistique pour valoriser son travail, le légitimer et le nourrir du soutien de l'autre. Ses œuvres sont généralement des peintures à l'huile, constituées par d'autres médiums en amont. Elle développe ses compositions à partir d'un travail de recherche picturale varié. L'artiste peint à partir de matières préexistantes, des photographies personnelles ou bien des archives collectives. Le résultat de ce travail a pu être apprécié lors de son exposition à la Cité internationale des arts. L'exposition, conçue avec la curatrice Ninon Duhamel, à partir du travail produit à Paris lors de sa résidence, se nomme « Car vois-tu, tu as le droit d'être obscur ». Citation empruntée au poète Édouard Glissant dans son ouvrage « Introduction à une poétique du divers », dans lequel il interroge entre autres, à l'instar de Nirvana, la question de l'altérité dans la quête de son identité. Il écrit à ce propos « Dans le panorama actuel du monde, une grande question est celle-ci. Comment être soi-même sans se fermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même ?» L'exposition s'ouvre avec la série « Combien tes batailles furent sombres ?» Sur la première toile sont peints trois hommes presque nus sous différents angles. Ces images sont des reproductions peintes de photographies tirées d'un travail ethnographique de 1848, trouvé à l'iconothèque historique de l'océan Indien. Prise à La Réunion durant l'année de l'abolition de l'esclavage, il s'agissait, d'après les annotations de l'auteur, de catégoriser les hommes par leur physionomie pour tenter de définir un physique type ethnique. Le paradoxe entre le contexte de libération politique et le regard déshumanisant de la science interpelle l'artiste. Elle reproduit ses photographies sur un fond de toile de Jouy, imprimé symbolique de la culture française au XIXe siècle. Elle explique vouloir mettre en relation le regard de l'ethnologue sur l'étranger et le regard de la France sur elle-même à travers un dialogue d'iconographie. Elle reproduit ce procédé sur la toile suivante, dans laquelle est représentée une scène dont elle a été témoin à Paris, un contrôle de police sur un groupe de jeunes hommes noirs dans la rue. Étonnée par l'armement lourd des policiers, elle photographie la scène et se rend compte qu'une des personnes contrôlées la regarde, les sourcils relevés, un regard entendu. Il a l'habitude de cette position humiliante et discriminante. Il subit la violence de la situation sans surprise. Elle les a habillés en toile de Jouy, mais bien qu'ils portent visuellement sur eux leur appartenance à la France, celle-ci ne les protège pas de l'hostilité de l'institution. Une autre scène parisienne a interpellé l'artiste, qui l'a reproduite en peinture, des vendeurs de petites tours Eiffel dans la rue. Sans papier, les photographies étaient compliquées car ils sont en permanence en alerte d'un contrôle de police. Les photos ont été prises de loin, sont floues, elle n'a pas pu préciser les détails de leur visage. Leur situation leur retire leur identité, ils disparaissent dans le décor touristique. Reproduire par la peinture permet à Nirveda d'extraire des images de notre imaginaire pour les questionner, les réinterpréter. Elle invite à un regard nouveau sur l'autre et peut-être par la même occasion à un nouveau regard sur nos propres systèmes de représentation. Vous pouvez retrouver le travail de l'artiste sur le site de la galerie Saatchi Arts.
Ainsi se termine l'émission de ce jour. Merci à nos chroniqueurs préférés Sarah et Paul et merci à Gérard, indispensable à l'existence de l'émission. Gérard que vous retrouverez d'ailleurs mercredi 6 mars. Mercredi prochain, le 28 février, c'est Jean-François Merkel que vous retrouverez avec une invitée exceptionnelle avec qui il s'entretiendra, Beata Oumoubiayi-Mérès, pour son dernier livre « Le Convoi », récit autobiographique et qui reçoit un accueil assez exceptionnel.
Deux dates par ailleurs à retenir d'ores et déjà sur votre et notre calendrier décolonisé. Alors ainsi, du 5 au 17 mars aura lieu la 10e exposition de l'association Pucéar pour un commerce éthique de l'art et qui s'intitule « Volcan, le feu du monde ». Cette exposition se tient à l'hôtel Raguenaud, 71 rue du Loup à Bordeaux. C'est une 10e édition, la Décima, qui accueillera plus de 60 artistes venus de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi d'autres régions françaises et également, évidemment, du Brésil, du Chili, de Cuba, de Colombie et du Mexique. Ces créateurs couvrent tous les champs des arts visuels, de la vidéo et du son à la sculpture, en passant par le dessin, la peinture et la gravure. pour marquer cet anniversaire, c'est d'ailleurs un graveur chilien qui sera accueilli en résidence, Américo Caamaño Quirada.
Second rendez-vous du 7 au 14 mars, l'assaut Pourquoi pas, que l'on connaît bien, propose au théâtre de l'Inox, rue Fernand-Philippe Par, une semaine artistique et culturelle sur les traces de Flora Tristan, exil des mondes passés, des territoires d'avenir. Du théâtre, des conférences, de la lecture de textes féministes, de l'arpentage, je vais y arriver, de la musique, des chants, du slam, des déambulations dans Bordeaux et plus encore. Et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.
Et oui, et puis un petit retour sur la situation au Sénégal. Vous savez que le pays est en grande tension, puisque Macky Sall, le président actuel qui arrive au bout de son mandat, a interrompu de façon très autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire, l'agenda électoral et a souhaité repousser les élections. Ça a suscité une émotion très très grande au Sénégal et également dans toute la diaspora sénégalaise, un peu partout dans le monde. Ça a entraîné également des révoltes de rue au Sénégal. Et la commission constitutionnelle a finalement annuler cette décision présidentielle quelque peu autoritaire. Et voilà, nous en sommes là au Sénégal, dans l'attente d'une nouvelle date pour les élections présidentielles, en attendant également la libération des prisonniers politiques, quand même. Et nous suivons ici, à la Clé des Ondes et dans l'émission Le Guide du Bordeaux Colonial, nous suivons de près ces événements et régulièrement, on vous donne des nouvelles. Au moment des mobilisations, il y en a eu samedi, il y a 15 jours, samedi dernier également. Et demain, il y aura un petit retour du rassemblement qui a eu lieu samedi dernier à La Victoire.
Oui, et un petit mot sur une cinéaste qui était présente dans une chronique de l'année dernière. Il s'agit de Mati Diop. J'en avais parlé à propos de son film « Mille soleils ». Elle a aussi réalisé « Atlantique », pour lequel elle a eu le Grand Prix à Cannes en 2019. Et la réalisatrice franco-sénégalaise a présenté la semaine dernière au Festival de Berlin son dernier film « Dahomey ». Le film part de la restitution des 26 trésors royaux du Dahomey, rendus au Bénin par la France en novembre 2021. Avec plusieurs milliers d'autres, ses œuvres furent pillées lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. Avec ce film, Mati Diop s'interroge sur les conditions du retour de ses ancêtres dans un pays qui a dû se construire et composer avec leur absence. Et le synopsis du film présente les choses comme ça. « Tandis que l'âme des œuvres se libère, le débat fait rage parmi les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. » Alors, la sortie du film est pour l'instant prévue le 25 septembre et il ne fait aucun doute que nous reparlerons alors de Dahomey de Mati Diop.
Ouais.
Et un deuxième mot sur toujours côté agenda, sur la projection le 8 mars.
Et cinéma aussi.
Et cinéma et agenda. Une projection le 8 mars au cinéma Utopia, du dernier film de Serge Lepéron, qui est consacré à Leïla Chaïd. Et ce film s'appelle Mémoire de Palestine, donc ce sera le 8 mars à 20h30 à l'Utopia.
Eh bien, merci pour toutes ces informations. Merci à tous, à chacune et à chacun. Et bien nous nous retrouverons pour ce qui concerne notre émission Un moment de littérature émancipatrice le mercredi 27 mars, même heure et même lieu. Et d'ici là
nous vous souhaitons d'excellents moments riches en lecture,
bien sûr.